Rebonjour. Donc cette table ronde, ça va être autour de la question des luttes en cours, ou en tout cas de quelques luttes en cours, parce que il y en a évidemment d'autres. Donc on va parler aujourd'hui de deux luttes en particulier qui concernent des artistes on va dire à différents moments de leur vie. Un des premiers aspects, ça va être autour donc des luttes qui ont eu lieu à partir de l'année dernière et qui continuent dans les écoles d'art, et l'autre autour de notre futur France Travail. Donc je vais vous présenter très rapidement les intervenants, intervenantes qui se présenteront plus précisément quand elles interviendront. Moi je suis Isabelle Gégaud, je suis membre du SNEAD, CGT, qui est un syndicat des salariés des écoles d'art. Et à ma droite, donc Caroline Sébillot, qui est membre de la BUS. Maëlle, qui représente le Massico Aura, qui est donc un syndicat d'étudiants des écoles de la création. Donc Aura pour Auvergne. On peut monter le son ? Auvergne-Rhône-Alpes. Pierre Garnaudier, qui est, je suis obligée de le lire, je ne le connais pas par cœur, qui est secrétaire national du comité national CGT des travailleurs privés d'emploi et précaires, et Marie-Lou, qui est illustratrice, qui est militante au SNAP CGT. Donc on va peut-être commencer déjà par faire un point sur ce qui s'est passé et ce qui se passe encore aujourd'hui dans les écoles d'art. Donc on va dire que depuis novembre 2022, toutes les écoles d'art, d'art et de design, qui ont été rejointes aussi à un moment par les écoles d'architecture. On va dire qu'il y a une grosse mobilisation dans les écoles territoriales. Je fais juste un petit point pour expliquer ce que c'est les écoles, le réseau un peu d'écoles d'art en France, où il y a donc on a donc 6 écoles nationales et 33 écoles territoriales sur 46 sites. Donc des écoles territoriales et ces 6 écoles nationales décernent tous un diplôme national qui est le DNSEP. Et il y a en plus, dans ce réseau d'écoles d'art en France, il y a en plus 6 écoles nationales qui délivrent leur propre diplôme, qui sont, par exemple, sont toutes les cités, les Beaux-Arts de Paris, les Arts Déco de Paris, l'école de la photo d'Arles, qui sont des écoles qui délivrent pas le même diplôme. Mais donc depuis de novembre 2022, les écoles d'art territoriales se sont mobilisées comme jamais pour défendre devant une situation qui s'est extrêmement précarisée. Et je vais peut-être passer la parole tout de suite à Caroline Sébillot, qui va expliquer un peu quelle est cette situation et qu'est-ce qui a déclenché cette mobilisation.
Alors, pour compléter la présentation, je suis donc membre de la BUS. Professionnellement, je suis enseignante-chercheuse à l'université à Nîmes, contractuelle, et artiste-autrice. Et donc, dans la BUS, je me suis beaucoup occupée ces deux dernières années de la mobilisation École d'art et design en lutte. J'ai un peu fait le relais parce que pour nous, ça nous semblait hyper important de porter les questions de professionnalisation, de régime et d'abus dans les écoles, auprès des écoles, et de voir... Donc avec les syndicats qui se sont montés comme le Massico, comment on pouvait travailler ensemble pour résoudre cette situation, puisque on considère qu'en fait les étudiantes et étudiants sont déjà des travailleurs et travailleuses de l'art, et que donc c'est hyper important de pas faire une séparation entre le moment des études et ce qui arrive derrière. C'est un tout. Les écoles sont d'ailleurs par ailleurs elles aussi déjà des diffuseurs et diffuseuses qui devraient payer une contribution Voilà, donc c'est des chantiers en cours. Donc c'est à ce titre-là que j'interviens aujourd'hui. Ça a commencé, donc je vais pas avoir l'historique très long, mais ça a commencé avec à l'école d'art à Lézy, Poitiers, en décembre de l'année dernière, et avec des problèmes de déficit budgétaire, des problèmes de contrats d'enseignants, d'enseignantes qui sont non renouvelés, des problèmes de risques psychologiques, psychosociaux aussi dans les équipes, et donc une grosse mobilisation des étudiantes et des étudiants. Ça s'est enchaîné quand même assez vite avec d'autres écoles qui se sont rendues compte qu'elles étaient elles aussi en déficit et qu'il fallait, enfin que ça posait des gros problèmes pour l'année scolaire en cours et les années suivantes. Dans le même temps, il se trouve que je devais intervenir en tant qu'enseignante à l'école d'archi de Rouen, et la rentrée n'a pas pu avoir lieu parce qu'en fait la scolarité n'était pas en mesure d'assurer la rentrée des étudiants et des étudiantes, sous effectifs, problème de congé maternité non remplacé dans les temps, etc. Donc en fait, on va dire des situations de craquage dans énormément d'écoles face d'une part à la charge de travail administrative qui a du mal à être assumée, d'autre part des situations fragiles et précaires en termes d'emploi, et du coup qui mettent en jeu la scolarité des étudiantes et des étudiants. On a réussi à obtenir avec l'Interorga une réunion au ministère le 13 mars. On a fait une manif devant le ministère de la Culture à Paris. C'est le moment aussi où on a commencé à entendre que Valenciennes, que l'école d'art de Valenciennes était en danger de fermeture pour la rentrée. Pour vous expliquer très très rapidement comment ça fonctionne, si vous voulez vraiment rentrer dans l'historique de ces écoles, il y a eu un rapport qui a été fait par Pierre Houdard qui se trouve sur le site du ministère de la Culture, qui reprend vraiment l'historique. Pourquoi les écoles sont faites comme ça, je ne vais pas le rappeler parce qu'il le fait. C'est une des choses qu'il a très bien faites dans son rapport. On va continuer dans la détestation du ministère de la Culture, qui ne nous écoute absolument pas. Il se trouve donc que les écoles territoriales sont des EPCC, des établissements publics à caractère culturel, avec donc une double tutelle. Une tutelle qui est d'une part le ministère de la Culture pour les questions pédagogiques, d'autre part le ministère de l'Intérieur pour les questions statutaires et budgétaires. Parce qu'en fait, les EPCC sont gérés territorialement. Donc, comme nous l'a rappelé le ministère de la Culture, ce sont des organes déconcentrés de l'État. Donc l'État donne déjà suffisamment d'argent aux territoires, charge à eux ensuite de répartir l'argent comme les territoires le veulent. Par contre, si les écoles n'ont pas de soutenabilité financière, et là c'est vraiment les termes du ministère de la Culture, donc que par exemple des élus décident, ont mis dans leur programme électoral que la culture ça suffisait, qu'on n'allait pas non plus continuer à financer des écoles qui ne servent à rien si ce n'est à former des chômeurs qui finiront chez France Travail, donc ils décident de retirer cet argent-là, de ne plus financer les écoles, étant donné que c'est une grande part du financement des écoles qui vient des territoires. Il n'y a plus de soutenabilité financière et l'État se désengage et dit « Ah, nous ne délivrerons plus de diplômes ». Voilà. Donc en fait, on est dans un espèce de ping-pong permanent entre personne ne veut payer finalement, mais par contre, le ministère de la Culture délivre le diplôme et valide la capacité des écoles à recruter, comme ils disent, des étudiantes et des étudiants pour les années à suivre. Ça continue. En fait, il y a énormément d'écoles qui sont en danger à cause de problèmes budgétaires, notamment parce que l'État ne s'est pas désengagé en termes de financement, mais avec l'inflation et l'augmentation du point d'indice de ces enseignants-enseignantes. Même s'il n'y a pas d'argent en moins, même si le montant des attributions aux écoles, au territoire reste le même, ça fait 14% en moins, puisqu'en fait tout coûte plus cher. Et donc on se retrouve avec des écoles qui sont en déficit budgétaire. Et qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre?
Moi, j'ajouterais qu'en fait, ce qui a rendu les choses visibles, mais je sais pas, peut-être tu veux en parler. Sur le fait qu'il y a à la fois, enfin, ce qui a rendu, ce qui a fait un peu, ce qui a mis le feu aux poudres, on va dire, en novembre, c'est à la fois quelque chose de très conjoncturel et à la fois quelque chose d'une lente dégringolade qui date pas du mois de novembre 22. Peut-être je te laisse la parole là-dessus.
Oui, en fait, il faut savoir que la case des écoles publiques de création, c'est vraiment pas récent. Ça fait vraiment longtemps que c'est en cours. Par exemple, Après-demain, qui est donc un recueil d'archives de lutte étudiante en école de création, en témoigne déjà depuis 2016. Il y avait déjà eu un mouvement national qui avait été mis en place, notamment avec des occupations, etc. Et pour citer un extrait d'un mémoire de Marion Bonjour qu'elle avait écrit en 2016-2017, qui s'appelait « La liberté commence par l'autonomie », elle dit « Nous vivons actuellement un basculement dans le milieu des écoles d'art. Deux écoles de supérieures d'art sont maintenant fermées. Celle de Rueil-Malmaison, fermée en juin 2008 suite à une perte de budget et à la réforme sur les établissements publics de coopération culturelle, donc les EPCC. Et celle de Perpignan, fermée en juin 2016 suite à de nombreux rapports sur les dysfonctionnements pédagogiques et des pertes de budget. Beaucoup d'autres sont aussi menacés de perdre leurs subventions. Décision prise dorénavant par les mairies, donc Avignon, Angoulême, Chalon-sur-Saône, Valenciennes, Cambrai, Tourcoing, Dunkerque, Montpellier. Valenciennes, c'était la problématique de l'année dernière. Là, on est sur Chalon. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Ah,
Valenciennes est déjà en train de fermer, on va dire.
Oui, mais voilà, ça a été... Peut-être on fera un point plus approfondi dessus après. Et en fait, tout ça, ça fait partie de dynamiques de néolibéralisation des écoles de création. Faut pas oublier qu'on vit dans une société capitaliste et qu'en fait, nos milieux, ils sont pas externes à ces réalités. On est vraiment en plein dedans. Ces dynamiques-là, elles sont mises en place depuis les années 80. Et en fait, on les retrouve avec la mise en compétition des étudiants entre elles, par le fait de juger les formations par le biais de l'employabilité et plutôt que par l'émancipation, sur la survalorisation de l'individualité, la valeur marchande qui est apposée aux connaissances. Je pense que je pourrais approfondir dessus, mais on n'a pas forcément énormément de temps.
Je sais pas, peut-être qu'on peut faire un point sur comment se sont organisées les luttes du coup à partir de novembre. Donc revenir peut-être sur la formation de l'interorganisation. Et qu'est-ce que ça a donné dans les écoles concrètement, comment ça s'est passé, puis peut-être on reviendra après sur la situation d'aujourd'hui.
Il y a quand même un truc qu'il faut préciser peut-être pour comprendre aussi ce qui coince en fait avec cette, hormis tout ce que tu as cité et qui est très concret dans les écoles, c'est qu'en fait ce sont des écoles d'enseignement supérieur qui ne sont pas régies par le ministère de l'enseignement supérieur, et que là où ça pose problème, c'est qu'encore une fois on se retrouve avec des écoles qui sont où on va dire c'est des écoles culture, création, métier, on forme des artistes, des designers, en fait on va les gérer au niveau municipal. C'est pas considéré comme de l'enseignement supérieur. Or, c'est des écoles qui forment des travailleurs et des travailleuses comme toutes les autres et qui n'ont absolument pas les mêmes droits, ni pour les étudiants et étudiantes, ni pour les professeurs, ni pour les administrateurs administratifs de ces écoles. Donc en fait, personne n'y gagne, si ce n'est de maintenir finalement ces écoles-là dans ce qu'on voudrait bien qu'elles soient, c'est-à-dire un petit truc qui gêne pas trop, ou alors des repères de wokistes, islamo-gauchistes, comme on veut, ça dépend, ça c'est le ministère qui nous considère un peu comme ça. L'interorga, on a du mal à acquérir une reconnaissance, soyons très clairs. Aujourd'hui, il y a des discussions qui ont repris. Le ministère nous avait promis qu'on allait mettre en place un calendrier avec une feuille de route pour travailler sur tous les problèmes structurels, parce qu'on a eu une enveloppe de 2 millions pour les problèmes conjoncturels répartis entre toutes ces écoles, ce qui fait quand même pas beaucoup. On n'a jamais eu ce calendrier, et finalement, on a été suppléé par d'autres instances, alors que dans l'interorga, il y a quand même des syndicats donc comme le SNEAD qui représente le personnel enseignant. Il y a des syndicats comme le MASICO qui va représenter les problématiques étudiantes. Nous, on n'est pas un syndicat, mais on est quand même... On travaille sur des questions assez importantes aujourd'hui. On commence à avoir une certaine reconnaissance en termes... Enfin, on maîtrise notre sujet. Et il y a d'autres...
Il y a le STA aussi qui en faisait partie.
Qui est dedans,
et puis d'autres collectifs d'artistes, comme par exemple les mots de trop. Je crois qu'on va voir tout à l'heure dans la prochaine table ronde un ou une représentante. Économie solidaire de l'art. Donc voilà, il y a eu tout un tas de collectifs aussi qui se sont...
Tout à fait. Et je pense que ce qui a quand même enfin participer, on va dire, à l'émulation de l'année dernière et toutes ces AG, enfin il y a vraiment eu des moments d'arrêt dans les écoles. Ça, je te laisserai en parler, Maëlle. Il y a vraiment eu des moments d'arrêt dans les écoles. Nous, on a essayé de structurer un minimum et de faire circuler les informations, de rassembler les gens en organisant des AG beaucoup en ligne. Mais ça a quand même permis d'ouvrir des espaces d'information, de militantisme et même entre nous, en fait, de vraiment
Oui, qui était une chose plutôt inédite, ou en tout cas qui n'avait pas eu lieu depuis bien longtemps dans les écoles d'art. On parlait tout à l'heure de la difficulté aussi des artistes à s'organiser, quand on comparait à la façon qu'ont les intermittents du spectacle de le faire. Donc c'est vrai que dans les écoles d'art n'étaient pas ces dernières années des lieux de mobilisation très actifs, on va dire, dans les luttes hors qui les concernaient pas directement. Je veux dire, par rapport, moi j'enseigne à Rennes. À Rennes, c'est vrai que Rennes 2 est un grand foyer de lutte étudiante. L'école des Beaux-Arts a toujours été un peu timide sur ces luttes-là. Donc c'est vrai que depuis novembre dernier, il s'est passé des choses dans les écoles qui étaient assez, assez nouvelles, en tout cas. Peut-être je te laisse là.
Carrément. En fait, ce qu'a permis notamment l'Inter-Orga, ça a été d'organiser des dates nationales. C'est-à-dire que, à l'initiative des AG, discussion collective qu'on a eue, on a posé plusieurs dates. La première, ça a été de faire une action nationale coordonnée, d'accrocher chacun devant nos écoles sur les façades des grandes banderoles avec écrit « sans argent public, pas d'école publique ». Ça a été la première, une des premières actions. Il y a eu aussi un rassemblement coordonné devant les DRAC, de différentes villes, coordonnées le même jour. Je me souviens plus de la date exacte, mais l'année dernière, quoi. Et en fait, il y avait déjà des occupations qui s'étaient mises en place dans différentes écoles. Et suite à cette action, il y a eu d'autres occupations qui se sont mises en place et on s'est retrouvé avec vraiment énormément d'écoles occupées. Je vais peut-être faire un zoom spécifique sur la région Aura, du coup, à ce moment-là. Ce qu'on a pu faire avec le Massico Aura, ça a été de... en fait, vu que la DRAC est à Lyon, le Massico Aura a invité les personnes de différentes villes à venir à ce rassemblement, mais aussi les personnes de différentes écoles. Du coup, on s'est retrouvé avec un rassemblement devant la DRAC avec des personnes d'architecture, des personnes d'école de théâtre, des personnes d'école de cinéma, mais aussi des personnes de chaque ville des 6 écoles des Beaux-Arts qu'on a dans la région. Et du coup, en fait, à la suite de cette action, de ce rassemblement, on a organisé une AG où on a voté l'occupation de l'école. Et en fait, après cette occupation, cette première nuit d'occupation, dans d'autres écoles de d'autres régions, d'autres écoles ont été occupées suite à ça. Donc en fait, on a pu aussi transmettre directement les outils de la lutte, de voilà, regarder, en fait, on peut utiliser tel moyen d'action pour réussir à déjà discuter collectivement, se rendre compte de l'urgence. Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Une occupation. Voilà comment on fait une occupation. Et allons-y.
Et donc il y a eu ces occupations, ces mobilisations. Il y a eu aussi un début de réflexion qui était de se dire que on pouvait manifester contre ce qui nous était proposé, mais qu'on pouvait aussi proposer des choses nous-mêmes. Et donc il y a eu une première ébauche qui est pour l'instant un document aussi de travail, mais qui était 29 propositions pour un avenir radieux des écoles d'art, qui était aussi une façon de pas être dans le contre, mais d'aller au-delà, en fait. C'était pas de dire que c'était bien comme c'était avant et qu'on nous enlevait quelque chose, mais que comme c'était avant, ça pourrait être bien mieux encore et qu'on avait des propositions plus ambitieuses que la situation de départ.
C'était aussi un moyen de contribuer, donc puisque les ministères ont décidé de ne pas donner suite au calendrier de travail qu'on devait avoir pour vraiment trouver des solutions ensemble aux problèmes structurels des écoles d'art EPCC et nationales. la ministre a mandaté Pierre Oudart, donc à ce moment-là, anciennement travailleur au ministère, à ce moment-là directeur de l'EPCC de l'école d'art de Marseille, qui est maintenant retourné au ministère, pour la missionner pour faire un rapport sur l'état des écoles d'art. Et donc, nous, on s'est dit qu'on voulait que même si on serait invisibilisé, on voulait quand même contribuer et avoir des choses à dire, et donc que pour pouvoir dire ces choses-là, il fallait qu'on les énonce déjà très clairement entre nous et qu'on fasse un peu quelque part, ben voilà, notre manifeste de ce qu'il fallait mettre en place à notre sens. Il y en avait qui étaient imprimés, qui étaient sur la table là-bas, que vous pouvez prendre, mais vous les retrouvez sur le site écoledartdesignenlutte.fr pour celles et ceux qui sont en ligne. Je vais juste vous lire les gros titres pour que vous ayez un peu une idée. Donc il y avait la question du fonctionnement démocratique des écoles supérieures d'art et design, avec la possibilité d'avoir une représentation du personnel administratif, enseignant et des étudianteux dans les décisions qui sont prises dans l'école. Des préconisations aussi pour mettre fin à la précarité des étudianteux, qui est un réel souci, et leur donner une équivalence d'accès aux droits de manière générale, que ce soit économique mais aussi à la santé, les mêmes droits qu'en fait que tous les étudiants et étudiantes de l'enseignement supérieur.
Je t'interromps, il faut dire que dans les écoles d'art par exemple, les droits d'inscription, les étudiants boursiers et les étudiantes boursières sont pas exemptés des droits d'inscription comme tous les étudiants dans toutes les autres universités. Et voilà.
Ouais, si tu veux compléter sur ces points-là. La question de la précarité des personnels aussi. Aujourd'hui, une enseignante en école d'art est moins payée qu'une institutrice de maternelle. Voilà, donc il ne s'agit pas de faire une hiérarchie entre les métiers, mais de dire qu'il faut revaloriser globalement les salaires des personnes qui font un travail d'éducation. Une pérennité financière aussi des établissements pour faire en sorte que il suffise pas que quelqu'un prenne la décision de fermer une école pour que ça se passe. C'est des établissements publics, l'accès doit rester public et c'est pas des questions électorales qui doivent régler ce genre de choses. Une reconnaissance aussi des étudiantes en tant que travailleuses de l'art en formation. Donc aussi la question critique du travail artistique, donc cette question des revenus et du statut ou du régime. Une professionnalisation et une reconnaissance des travailleuses de l'art, et donc à minima faire respecter le droit en vigueur, droit du travail, rémunération, les problématiques de violence sexuelle, raciale et validiste qui sont dans les écoles d'art. Donc on abordait quand même un panel assez large, et je te laisse compléter.
Oui, peut-être je peux compléter avec le dernier communiqué de l'Interorga qui est sorti donc le 8 décembre 2023. Il commence simplement en disant que lors de l'examen du projet de loi finance à l'Assemblée nationale, un amendement visant à abonder le budget des écoles supérieures d'art et design territorial de 16 millions d'euros avait été adopté, mais malheureusement n'a pas été conservé à la suite du recours à l'article 49.3. Justement sur la question des frais d'inscription, il y avait deux amendements en particulier qui en parlaient et qui ont, en fait, c'est des frais d'inscription qui n'ont pas été versés depuis 5-6 ans et qui équivalent à environ 1,6 million d'euros. Donc juste pour réappuyer cette question-là, en fait, il y a un énorme déséquilibre entre les écoles territoriales, donc qui dépendent des municipalités, des régions, des agglomérations et des métropoles, et les écoles nationales, donc qui dépendent de la tutelle du ministère de la Culture plus directement. Et en fait, le problème, c'est que c'est l'éducation, enfin l'égalité d'accès à l'enseignement supérieur de la création qui est impactée directement. Si en fait on doit payer des frais d'inscription de plus de 500 euros, en fait c'est les écoles territoriales qui vont faire leur truc comme elles le sentent, et qu'en fait il y a que, en fait c'est 12 écoles nationales qui en tout.
En fait il y a 6 écoles nationales qui délivrent le même diplôme que nous, le DENSEP, et 6 autres qui délivrent leur propre diplôme.
C'est ça, et en fait il y a 12 écoles nationales donc où les étudiants et étudiantes boursières sont exonérés des frais d'inscription, mais les 33 autres écoles territoriales, ça va être les directions qui vont choisir en fonction des municipalités, etc. Et du coup on pourrait avoir un accès à ces écoles qui serait énorme, mais en fait on se retrouve pas du tout avec cette réalité-là, quoi. Et je vais pas trop approfondir sur la question des 16 millions, mais le communiqué qui précise pourquoi est-ce qu'on a besoin des 16 millions, qui sont donc Pardon, qui sont en fait, ça permettrait de répondre seulement à des besoins d'urgence. C'est même pas pour répondre à en fait les exigences qu'on aimerait avoir vraiment pour faire fonctionner des écoles, mais c'est vraiment pour compenser là l'urgence qu'on a à l'heure actuelle.
Donc ces 16 millions qui ont été donc rejetés au 49.3, qui sont repassés au Sénat, qui ont donc cet amendement a été voté au Sénat contre l'avis de la ministre de la Culture, qui a donc émis un avis défavorable en disant que c'était pas au ministère de payer mais aux collectivités. Donc comme dirait un collègue, elle nous déteste. Je sais pas, je pense qu'il faudrait qu'on arrive à conclure pour passer au reste. Je sais pas, donc c'est vrai que c'est une on sent une volonté en fait de notre ministère de se débarrasser un peu de ce fardeau des écoles d'art. On a l'impression effectivement que l'idée ce serait plutôt beaucoup plus confortable que ça passe au privé par exemple, et que le privé se charge de cet enseignement supérieur. Tu veux compléter là-dessus?
Je voulais quand même, pour les bonnes nouvelles, dire que la mobilisation de l'année dernière a fait faire un bond dans les adhésions des différents syndicats, que le SNEAD, vous avez eu énormément d'adhésions, qu'au Massico, vous avez ouvert aussi des sections dans plein d'écoles avec plein d'étudiantes et d'étudiants qui sont venus vous rejoindre, et que c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour les questions de précarité des travailleuses de l'art en général. De toute façon, on voit bien que, on était des travailleuses non essentielles pendant le Covid, on le restera encore, on aura beau sortir les chiffres de ce que rapporte la culture, on sera toujours, actuellement en tout cas, cantonné dans ce rôle de personne assistée. J'ai essayé de faire un lien avec France Travail.
Petite phrase comme ça, mais il faut que les travailleuses de l'art et du design, qu'on soit en formation ou non, cessent de nier leurs conditions matérielles d'existence en les affiliant à une condition intrinsèque de la vie d'artiste ou au métier passion. Ce sont des conditions politiques qui dépendent d'un mode de fonctionnement structurel, et nous pouvons lutter pour en obtenir de meilleurs.
Et donc pour faire le lien avec... Donc on assiste quand même à quelque chose qui est de... Et qui est pas, on se rend bien compte que c'est pas que cette casse du service public, elle concerne évidemment pas que nous, elle concerne pas que les écoles d'art. C'est effectivement la même chose qu'on voit, qu'on a vu au moment de la loi retraite. C'est la même chose qu'on voit dans les hôpitaux, dans plein d'autres domaines, dans l'aide sociale en l'enfance, qui est dans un état aussi assez dramatique. Donc on assiste un peu à cette même casse dans ce qui était le RSA. Donc il faut savoir que le RSA, c'est quelque chose, il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de jeunes artistes en particulier qui ont recours à ce dispositif, qui est évidemment pas le dispositif idéal, qui est pas forcément la chose la plus adaptée, mais on assiste actuellement donc avec ce projet de France Travail à quelque chose qui va pas tellement arranger nos affaires. Et peut-être je vous laisse ou je te laisse comme tu as le micro en main, Marie-Lou, déjà nous dire quelle est la situation actuelle et quelle est la situation de ce dispositif actuellement, et qu'est-ce que France Travail va changer à ça.
Alors oui, je suis Marie-Lou, du coup du SNAP CGT. Je m'intéresse du coup à France Travail et au RSA, parce que moi, je suis moi-même artiste autrice au RSA, donc je connais les problématiques. Effectivement, comme dit Isabelle, il y a énormément d'artistes quand ils commencent leur activité artistique après une école, le temps de générer des revenus, effectivement. Donc voilà, soit on a un boulot alimentaire, et on a un peu d'assurance chômage, soit des fois, on est au RSA. Quand on peut pas avoir d'ASS, hein, parce que voilà, on peut avoir accès à l'ASS apparemment quand on est artiste autrice, auteur. Et du coup, oui, France Travail, France Travail. Comme on parlait de privatisation, parce que c'est vraiment ça, hein, du coup, on privatise tout. Et France Travail, ça fait partie aussi de l'optique hein, de ce gouvernement qui est une start-up nation, ne l'oublions pas. Donc du coup, on est là-dedans, on start-up nation tout, la formation, tout, voilà. Donc l'emploi et France Travail, donc c'est une... C'est la réforme, du coup. France Travail, voilà, est venue avec la réforme pour le plein emploi. Voilà. Il faut des gens, il faut une main-d'œuvre à bas coût pour le patronat. Donc là, France Travail arrive. Et du coup, on va aller chercher les gens qui n'ont pas de travail. Parce que, évidemment, quand on a RSA, on n'a pas de travail, mais on travaille. Donc, c'est une nouvelle gouvernance, parce que c'est vraiment ça, en fait. C'est une gouvernance, une centralisation, on va dire. Et donc, ça a été, la loi a été votée, du coup, il n'y a pas très longtemps. À la base, moi, j'avais eu écho que Pôle emploi resterait Pôle emploi et que voilà, France Travail serait en haut et puis après, il y aurait tout, la CAF, Pôle emploi, tout ça. Et finalement, Pôle emploi va devenir France Travail. Et ça, ça inquiète énormément les personnes qui travaillent à Pôle emploi, les conseillers. Et puis, je sais que moi, j'ai rencontré des camarades syndiqués, ça les inquiète énormément. Je pars dans tous les sens. Donc voilà, et donc pour nous, ce qui nous concerne, c'est que là, il va y avoir énormément... Là, il y a un contrôle. Il y a un contrôle qui se fait, il y a un contrôle social des travailleuses les plus précaires. Et les artistes, auteurs, autrices en font partie. En font vraiment partie. C'était déjà difficile en tant qu'artiste, auteur et autrice d'expliquer notre cas dans les institutions comme Pôle emploi ou la CAF. Voilà, c'était déjà très compliqué de trouver des conseillers qui connaissent notre statut. De leur expliquer qu'on n'était pas micro-entrepreneur, qu'on n'était pas en micro-entreprise et qu'on avait un statut des artistes-auteurs. Moi, je suis à Nantes, j'avais la chance d'avoir encore des conseillers à la CAF qui connaissaient, donc c'était cool, on avait quand même des bons conseils. Et donc, du coup, quand on était au RSA, soit on déclarait nos revenus en déclaration contrôlée, c'est tous les ans, ou tous les trois mois si on est en micro-BNC, voilà, on comprenait. On avait le droit à la prime d'activité aussi, dès lors qu'on génère des revenus, donc la prime d'activité, qui n'est pas du tout une compensation de perte de revenus, hein, c'est ce qu'une conseillère de la CAF m'a dit, c'est juste, voilà, une petite prime, voilà, ça fait pas vraiment vivre. Et puis, il faut savoir aussi que le RSA, quand même, et ça ne concerne pas tous les artistes-auteurs, parce que c'est soumis aux revenus du foyer. Donc, il y a quand même énormément d'artistes, et nous, on en connaît dans le syndicat, qui n'ont pas accès au RSA parce que leur conjoint gagne suffisamment. Donc, du coup, eux, ils sont complètement invisibilisés. S'ils ne gagnent pas de revenus, alors là, ils... voilà, c'est encore une lutte à avoir aussi. Voilà. Et effectivement, le RSA, donc, qui est un revenu de solidarité active, anciennement le RMI, bon, voilà, c'est pas la solution non plus hein, pour nous, les artistes-auteurs. Pas du tout. Voilà. Donc, on a d'autres propositions. Il y a eu la continuité des revenus. Il y a plein de choses. Hein. Voilà. Donc, France Travail, de ce que j'ai compris, ça commence dès janvier 2024. Ça commence déjà, en fait, parce qu'il y a déjà eu des contrôles de fait. Il y a déjà des artistes, auteurs et autrices qui sont contrôlés, qui sont même harcelés par certains conseillers zélés de Pôle emploi, mal formés, je ne sais pas, ou en tout cas, qui subissent des pressions de leur hiérarchie. Ça, j'en ai entendu parler aussi par des camarades syndiqués. Parce qu'il faut savoir qu'un conseiller Pôle emploi, donc, qui va contrôler ces travailleurs précaires, voilà, qu'il va falloir remettre dans l'emploi. Avant, il pouvait regarder un autre dossier de quelqu'un qui était problématique. Maintenant, en fait, ils ont un portefeuille. Ils ont un portefeuille je dis de clients, parce que c'est vraiment ça, là, maintenant, mais... Voilà, un portefeuille de gens à salariés, obligatoirement. Et ils ne peuvent pas déroger à leur portefeuille. Donc, si on a, par exemple, un conseiller Pôle emploi un peu zélé qui nous harcèle et qu'on veut changer de conseiller Pôle emploi, c'est très compliqué. Là, ça commence à devenir très, très compliqué. Et avec l'arrivée de France Travail, là, je ne sais pas ce que, voilà, je sais pas ce que ça va donner. Et moi, mon inquiétude aussi, c'est que ce France Travail, donc, qui est vraiment une nouvelle gouvernance et une centralisation de toutes ces données, c'est une centralisation des données aussi de la CAF. Et la CAF, il faut savoir qu'il y a au moins, moi je dirais au moins les trois quarts de la population qui ont un dossier à la CAF. Et c'est pas en étant au RSA, hein, quand on a des enfants, quand on a de l'allocation logement, voilà, on a des données à la CAF. Et la CAF va vraiment être le centre de tout. Il va avoir toutes ces données sensibles. Et moi, ma question, c'est où va être centralisées ces données. C'est juste ça qui ça m'inquiète énormément. Où ça va être centralisé? Et puis, on parlait aussi tout à l'heure, du coup, pour les écoles d'art, du ministère de l'Intérieur. Donc, c'était aussi une inquiétude de camarades. C'est qu'en fait, le RSA, par exemple, c'est le département qui finance le RSA. Chaque département finance le RSA. Et chaque département est plus ou moins sous l'égide d'un préfet. Donc du ministère de l'Intérieur. Donc il y a tout ça, hein, tout est centralisé au ministère de la Culture. Voilà, donc voilà, c'est donc voilà. Enfin, en gros, c'est une belle merde. Je vais passer du coup la parole à Pierre, qui va peut-être plus parler en détail de France Travail.
Eh ben, merci en tout cas du coup pour l'invitation. Donc moi c'est Pierre, moi je suis de la CGT chômeurs et précaires. Moi déjà pour peut-être dire l'actuel, c'est-à-dire les questions sur lesquelles nous aujourd'hui on est déjà sollicités par des travailleuses, des travailleurs, artistes, auteurs. Aujourd'hui majoritairement, je dirais, c'est sur deux sujets. Le premier c'est sur les contrôles de la recherche d'emploi, où quand même globalement, quand il y a un contrôle de la recherche d'emploi d'un artiste, auteur ou autrice, et qu'on dit à Pôle emploi, calmez-vous les loulous, elle est artiste-auteur, c'est pas une vraie auto-entrepreneur comme tous les autres, laissez-la tranquille. Globalement, aujourd'hui, Pôle emploi laisse tranquille. Le deuxième sujet sur lequel aussi on est beaucoup sollicité, c'est sur la méconnaissance en tout cas sur la confusion qui est faite à Pôle emploi entre le statut auto-entrepreneur et celui d'artiste-auteur, qui amène, par exemple, sur le sujet de l'ASS. Je ne vais pas rentrer dans les détails trop techniques, mais en gros, si vous faites des démarches, vous pouvez cumuler ASS et votre auto-entreprise maximum un an. Si vous ne faites pas de démarches, c'est 3 mois. Pour les artistes auteurs, du coup, c'est toute la vie. Enfin, c'est toute la vie, on n'espère pas, mais c'est toute la vie. Et ça, Pôle emploi ne le savent pas. Donc, ça fait indu, donc il faut contester les indus. Et donc, voilà, on est pas mal sollicité là-dessus aujourd'hui. Demain, ce qui va arriver avec France Travail, je dirais, c'est qu'il y a un débat général qui a été esquissé déjà un peu dans la précédente table. C'est le travail, qu'est-ce que c'est qu'il définit? Si on laisse les capitalistes continuer à définir c'est quoi le travail, ça va se réduire à peau de chagrin. Et donc, ça va faire très mal pour tout le monde. Sur France Travail, il y a un enjeu pour le gouvernement aujourd'hui, c'est de mettre en face de chaque prestation sociale, y compris des prestations de misère, comme par exemple la garantie jeune, où c'est 500 balles par mois selon mes revenus pour les moins de 25 ans, en face des droits, des obligations. Et bien évidemment, des obligations qui sont très fortes. Et la première obligation, c'est de travailler où le patronat veut qu'on travaille. Et donc, si j'inscris cette volonté-là du gouvernement, du patronat, dans vos professions à vous, mais je dirais même au-delà, pour l'ensemble des travailleuses et travailleurs précaires, eh ben, quand on est par exemple artiste-auteur et qu'on n'est pas en capacité de démontrer à Pôle emploi, en tout cas que Pôle emploi ne veut pas entendre, parce que vous êtes largement en capacité, mais que Pôle emploi ne veut pas entendre qu'une artiste-auteur travaille en fait tout le temps, parce qu'avant de rendre son œuvre, eh ben, elle est réfléchie quand même, si Pôle emploi n'est pas en capacité de comprendre ça, eh ben, en fait, il pense que ça, ce n'est pas du travail. Et donc, s'ils pensent que ça, ce n'est pas du travail, eh bien, il va falloir en trouver un autre. Je parle un peu crûment, hein, et bien sûr, je rends leur raisonnement un peu bête, mais c'est comme ça, eux qui réfléchissent. Et donc, mais c'est vrai pour vous, c'est vrai aussi, par exemple, pour les gardiens de troupeaux, les bergers, les bergères, où Pôle emploi leur dit, mais ça, c'est 2 mois et demi de travail, ou 4 mois de travail, et les 8 mois restants. Mais c'est pas du boulot. C'est pas du travail. Travaillez pas, c'est pas un vrai métier. Si tu travailles que 4 mois par an, c'est que c'est pas un vrai métier. T'es artiste-auteur. Ouais, mais ça, c'est ton hobby. C'est pas ton travail. D'ailleurs, tu vis pas avec le travail, vu qu'on te file du RSA tout le temps. C'est ça leur logique. Et donc, moi je pense, et c'est un vrai sujet, je pense, sur lequel il y aura, qu'on a besoin d'avoir des liens, et des liens en continu là-dessus, c'est sur le projet professionnel. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez entendu les éléments de langage, notamment Adrien Clouet est beaucoup intervenu là-dessus, c'est le passage du contrat d'engagement réciproque à contrat d'engagement tout court. Et quand on enlève le mot réciproque, ça veut dire que c'est partagé. Aujourd'hui, à Pôle emploi, vous pouvez dire « je vais être designer, je peux être graphique ». Demain, le conseiller France Travail pourra dire « t'es pas un vrai designer, t'es pas une vraie graphiste, parce que t'en vis pas, donc faut faire autre chose ». Voilà. Et ça, c'est un vrai enjeu. Et bien évidemment, après, si je tire le fil sur toutes les autres questions, sur le contrôle de la recherche d'emploi. Oui, mais vraiment, prouve-moi que du coup, que t'en vis. Si t'en vis pas, boum, je te radis. Et surtout, c'est pas seulement je te radis, c'est je t'impose autre chose. Je t'impose un autre métier. Avec, du coup, une autre formation, tout ça. Donc, voilà. Moi, nous, pour l'ensemble des travailleurs, des chômeurs, mais des travailleurs précaires, on pense que c'est une bataille importante à mener. Et aujourd'hui, déjà, il y a des victoires, hein, parce que d'aujourd'hui, déjà, à Pôle emploi, maintenir son projet professionnel, c'est pas évident, mais on arrive quand même à le gagner. Il y a une deuxième chose. Vous avez entendu parler des 15-20 heures. Les 15-20 heures, on est d'accord, c'est ce que disait Marie-Lou, le but du jeu, c'est de graisser la patte des boîtes privées. Alors là, il y a toutes les prestations débiles et plus misogynes les unes que les autres. Bien savoir se maquiller, valoriser son image professionnelle, voilà, tout ça. Aujourd'hui, à Pôle emploi, ces prestations-là ne sont pas obligatoires, mais avec France Travail et le 15 heures d'activité minimum par semaine, ça va devenir obligatoire. Et donc, c'est-à-dire que vous, à la place de moments où, et on avait le débat avec un camarade qui est si je comprends bien, qui accompagne dans l'insertion professionnelle des artistes, tout ce moment en dehors de, où c'est des étapes de réflexion pour penser, tous ces moments-là vont vous être enlevés. En tout cas, il y aura une bataille là-dedans qui est importante, parce que soit je vais à un atelier pour bien savoir se maquiller, soit je réfléchis à mon œuvre, mais je ne peux pas faire les deux. En tout cas, 4 heures dans la journée, ça c'est enlevé. Et puis 15 heures par semaine, ça fait beaucoup de temps en fait. Voilà, donc nous, et ça c'est vrai pour tous les autres privés d'emploi précaires, mais particulièrement pour vous, et donc on pense là-dessus qu'il y a des batailles à mener. Nous, on mènera bataille en tout cas là-dessus, parce que c'est nous, ces prestataires, on les appelle les vautours de l'emploi, on a envie de les chasser de Pôle emploi, donc on mène des grosses batailles, on en mènera au cours du premier trimestre, et surtout on va demander avec le groupe GDR, donc communiste apparenté, et France Insoumise, une enquête parlementaire sur justement ces vautours qui se font de l'argent. Moi, je voulais juste terminer sur une chose. Et donc, c'est vraiment sur cette idée-là, de RSA contre travail. Et nous, comment est-ce qu'on définit le travail? Il ne faudrait pas qu'on pense que les débats que vous avez eus, je pense tout aujourd'hui, mais d'abord celui que j'ai entendu, c'est-à-dire à la précédente table ronde, ce sont des débats dont vous avez le monopole. Ces débats-là du travail, de qu'est-ce que le travail, de comment est-ce qu'il est rémunéré le travail, bien évidemment, qui diffèrent selon les secteurs d'activité dans lesquels on est. Mais si je vous prends, par exemple, un secteur qui pourrait être le plus opposé au vôtre, c'est celui des grosses usines où on construit des voitures. Eh ben, actuellement, le patronat de la métallurgie mène une offensive qui est historique sur le paiement, justement, des ouvriers, des ouvrières, des employés, des cadres. Et qui, comment dire, détache le travail de la qualification. C'est-à-dire qu'on a des travailleurs qui ont des diplômes, ils ne seront plus payés en fonction de leur diplôme. Donc cet enjeu-là du travail, de qu'est-ce que le travail, de comment est-ce qu'on le rémunère et de qu'est-ce qui le définit, ça je pense que c'est une lutte qui concerne l'ensemble de la classe ouvrière, plus globalement des travailleurs, des travailleuses, et que ça c'est à faire le pont par contre. Voilà, et je crois que nos organisations syndicales à nous, si elles ont une responsabilité parmi tant d'autres, c'est d'abord de faire le pont entre des luttes sectorielles qui peuvent exister, parce que effectivement, ce n'est pas évident pour un ouvrier de la métallurgie de regarder un plasticien ou une plasticienne droit dans les yeux et de lui dire, en fait, on partage les mêmes conditions de vie, on a exactement les mêmes revendications. Non, ça se travaille, il faut des moments d'échange. Et je pense en tout cas, il y a à décloisonner les luttes, parce que c'est que comme ça qu'on pourra gagner.
Juste un point. Je... Juste une remarque par rapport à ce que tu dis, parce que c'était quelque chose qui était assez fort dans les luttes dans les écoles d'art l'hiver dernier jusqu'au printemps. Ces luttes se sont beaucoup organisées autour de la lutte sur la loi retraite. C'est-à-dire que ça a pris beaucoup de place en fait ces manifestations-là et les luttes dans les écoles se sont beaucoup organisées autour de ces luttes qui étaient partagées. Ça n'a pas été des luttes corporatistes, on va dire. Marie-Lou.
Bah moi je vais rebondir à ce que dit Pierre parce qu'effectivement là France Travail c'est clairement effectivement un choix de société pour le gouvernement de toute manière, on le sait. Il faut pas oublier que notre cher gouvernement veut quand même atteindre les 5% de chômage en 2027 et que pour y arriver il va falloir faire des choses pour y arriver, donc autant radier des gens à arrêter de les aider et puis aller les mettre au travail, les mettre encore plus au précaire pour qu'ils aillent bosser et puis trouver n'importe quel boulot. Parce que France Travail, c'est vraiment une main-d'œuvre à bas coût pour répondre à une demande locale de travail. Voilà. Alors pour l'instant, ils croient qu'ils vont y arriver, mais ils ne vont pas y arriver parce que moi, c'est pareil, j'ai entendu il n'y a pas très longtemps un camarade aussi de Pôle emploi qui, dans un autre domaine d'activité, par exemple le BTP, je crois, et il disait en 2024-2025, ça va baisser, il y aura moins de travail. Donc je ne sais pas comment on va faire, même ces 15 heures d'activité obligatoire hebdomadaire, je ne sais pas trop comment ils vont faire. Effectivement, comme dit Pierre, de toute façon, il y a les vautours, c'est la formation. Voilà, on va parler un peu de formation aussi derrière, parce que dans les 15 heures d'activité hebdomadaire, de ce que j'ai compris, on pourra se former. Voilà. Donc là, arrivent toutes les formations du privé, on va vous former, et puis pour vous employer ou pas, enfin je sais pas. Et donc du coup, ce taux de chômage donc du coup à 5% qui doit absolument atteindre en 2027, il faut savoir qu'actuellement on est à 7,2% de taux de chômage. Bon, ils ont complètement biaisé les chiffres. Voilà. Je suis même pas sûre que les gens au RSA soient vraiment dans le calcul. Parce que moi-même, par exemple, j'ai appris que je n'étais pas dans le calcul. Je suis au RSA, je suis artiste-auteur, je génère des revenus artistiques, mais je suis en catégorie B ou C, donc je suis même pas dans le calcul du taux de chômage. Donc c'est facile, en fait, de virer tout le monde du calcul. Et puis on va arriver aux 5% assez rapidement. Mais derrière, voilà. Donc ça, ils sont très forts là-dessus pour biaiser les chiffres, pour trouver des petites stratégies, pour dire c'est bon, il n'y a plus de chômage. Non, mais si, en fait, il y a plein de pauvres. Je ne sais pas combien il y a de pauvres, c'est de pire en pire. Et puis, il y a aussi ce France Travail, ça concerne vraiment tout le monde. Effectivement, comme dit Pierre, c'est tout le monde que ça concerne. Ça va concerner les intermittents, par exemple. Je connais des intermittents, ils y pensent pas, mais ça va les concerner. Ils vont avoir aussi des pressions de Pôle emploi par rapport à l'indemnisation, le coût de ce truc-là, quand même, on sait pas du tout combien ça va coûter. Moi, de ce que j'ai vu en lisant les articles, c'est de 300 millions à 500 millions en tout que ça va coûter. Ça va coûter quand même du logo, hein, va falloir le faire, ce putain de logo France Travail. Ça va coûter des sous. Donc, c'est pareil, ça m'intéresse de savoir quelle société va faire ce logo. Hein. Est-ce qu'il y aura un petit entre-soi gouvernemental, une petite entreprise, on ne sait pas. Bon, voilà, c'est la Startup Nation. Donc voilà, il y a France Service, il y a France Compétences pour la formation, France Travail maintenant. Donc mon mal blague dans l'article du Snap, c'est France Famille. On attend France Famille pour la natalité et le travail domestique. Peut-être que nous voilà, c'est. En tout cas, je tenais juste à dire qu'effectivement, comme dit Pierre, ça va concerner tout le monde. Ça va concerner qu'est-ce que le travail ? Parce que ça questionne vraiment de savoir qu'est-ce que le travail. Et France Travail, c'est pas notre notion du travail, je pense. Pas du tout. Et merde, j'ai perdu le fil. Voilà. Mais en tout cas, je pense qu'effectivement, c'est bien qu'il y ait des étudiants et je pense qu'il va falloir vraiment s'intéresser à ce gros truc-là qui arrive. et il va falloir se battre, ça va être un peu compliqué. Après, il y a des moyens des fois de contourner. Alors l'idéal, je le redis, bon, c'est, je suis syndiquée, mais le syndicat aide vraiment à avoir des armes, vraiment des armes, pour se battre face à des institutions, des fois des conseillers zélés. On y arrive en fait, on y arrive des fois à avoir des conseillers qui nous écoutent, des conseillers des fois syndiqués, c'est cool. J'en ai eu une au téléphone il n'y a pas très longtemps de Pôle emploi, elle était CGT, c'était cool, elle m'a expliqué plein de choses. Donc voilà, ça aide de, ouais, de syndiquer, de se fédérer ensemble, voilà, étudiants, travailleurs, voilà, artistes, voilà. Et puis on a tout à proposer, on a tout à refaire, quoi, voilà.
Je ne sais pas si vous avez des choses vous à rajouter là-dessus. Juste, effectivement, j'abonde ce que tu dis sur le fait de se syndiquer. Ça permet aussi de se former, enfin, et de comprendre les choses, parce que c'est, enfin, je trouve que c'est quasiment impossible de rentrer dans ces problématiques-là et de les comprendre si on n'est pas accompagné par un groupe. Enfin voilà, je sais que sur les outils que le SNAP met en place, il y a beaucoup de discussions qui permettent de comprendre ce qui nous arrive et de comment on peut. On peut être armé effectivement devant un conseiller Pôle emploi ou devant à plein d'autres moments, devant les impôts, devant l'URSSAF Limousin.
Je rebondis en plus à ce que dit Isabelle, c'est que bon, le SNAP est confédéré à la CGT, et ce qui est quand même super, c'est que moi j'ai participé en fait à Nantes à une journée d'études. C'était en octobre, justement sur France Travail. Et ce qui était super, c'est que j'ai rencontré d'autres camarades syndiqués à la CAF, à Pôle emploi, aux missions locales. Et en fait, ça permet aussi de parler à d'autres personnes qui travaillent en fait dans l'administration. Et du coup, de rebondir, d'avoir des questions. Voilà, il y avait aussi des camarades du comité précaire emploi. Et c'est super stimulant, en fait, on se sent moins seul, on se sent vraiment moins seul, parce que nous, artistes, auteurs, et même étudiants, voilà, hein, quand on n'est pas fédéré, on a l'impression d'être tout seul dans notre petit lieu de création et perdu avec l'administration et le harcèlement de la CAF ou de Pôle emploi, ou voilà. Et donc ouais, c'est une belle arme. Et puis quand ça se passe bien, voilà, bah, y a des choses qui se font, il y a des idées, il y a des propositions. Et ouais, donc on se sent plus fort aussi. Voilà, normal, quoi, parce qu'on est ensemble. Voilà.
Je ne sais pas si vous avez des questions ou si... Vas-y. Tu voulais dire quelque chose, pardon, excuse-moi, je n'ai pas compris.
En fait, je voulais juste dire, grâce aussi aux autres camarades qui sont là, on a pu faire la fête du chômage précédemment, et j'ai déjà appris beaucoup de choses sur France Travail. On avait plusieurs personnes syndiquées à Pôle emploi, donc ceux Pôle emploi qui travaillent à Pôle emploi et d'autres qui sont en relation. Petits tips qu'on leur a dit pour l'instant à Pôle emploi, c'est que par exemple, si on va au théâtre, eh ben, on peut le dire à notre conseiller France Travail, ça comptera 2 heures. Donc c'est très rigolo, moi, en tant qu'artiste, je vais dire, je suis allée voir une expo. Ah, c'est super ça, ça c'était du travail, aller voir une expo, oui, bah ouais. Et du coup, vous pouvez faire vos 15 heures en allant voir une pièce de théâtre, une expo et un opéra, et puis voilà. Ouais, on parle d'autre chose maintenant.
Alors moi, j'ai un autre... J'ai émis l'idée... Je me suis dit que l'engagement syndical, c'était du travail. Le militantisme, c'est du travail. Et moi, j'ai sorti à ma conseillère que mon militantisme, mon bénévolat, qui équivaut au moins à 15 heures hebdomadaires, c'était du travail. Donc voilà. Donc moi, mes 15 heures hebdomadaires, je l'ai fait. Je sais pas, hein, parce qu'apparemment, à la base, dans les 15 heures hebdomadaires, ils parlaient de bénévolat. Donc moi, je lui ai dit, bah, bénévolat, bah voilà, militantisme, c'est du bénévolat. Bah, c'est mes 15 heures voilà, de bénévolat, donc c'est bon, on n'a pas à m'embêter voilà, pour ces 15 heures hebdomadaires. Syndiquez-vous.
Oui, bonjour, donc je suis Nicolas. Oui, syndiquons-nous, très urgent. Donc moi, je travaille à Solidarité. Donc on est un peu les travailleurs de pour l'art de l'ombre. Donc c'est une association créée par les plasticiens pour les plasticiens dans les années 70 et qui a vu le jour dans les années 90 justement pour répondre à un non-accompagnement comparé aux intermittents, etc. Je voulais juste témoigner. Alors déjà, une petite précision. Pour la catégorie, vous faites partie des gens du voyage. Voilà. Artistes et gens du voyage, c'est la catégorie d'après la CAF et la métropole. Voilà. Donc c'était juste pour la petite précision. Et l'urgence, parce que en fait, France Travail, c'est déjà opérationnel. Donc nous, on accompagne 160 artistes sur la métropole lyonnaise dans le dispositif du RSA. On est à 187 parce qu'on est les seuls à le faire. On avait cette fierté de créer cette bulle de protection pour la création, c'est-à-dire que moi, je suis un ancien musicien, écrivain, etc. On est trois dans l'association. Marie-Noël est artiste plasticienne, et donc on a une compréhension, une écoute. Et donc, on assurait cette bulle de protection autour de la création, c'est-à-dire pas de retour à l'emploi, pas de questions, on parle de ce qui se fait, de la création, de l'émergence, etc. Ce n'est plus possible depuis le 30 août 2023. On a été convoqués pour 10 dossiers, ça n'est jamais arrivé. Hein. 10 dossiers, c'est ce qu'on faisait normalement en termes de convocation par an. Là, on a été convoqués sur 10 dossiers. Ils n'ont même pas écouté nos questions. Même pas nos réponses, d'ailleurs. Ils ont posé des questions et ils nous ont fait repartir sans qu'on ait répondu. Là, on voit ces fameux contrats d'engagement. Des choses qu'on ne voyait pas avant. Avant, quand un dossier était remis en question, on se déplaçait, ça faisait un peu un espèce de dialogue un peu à la Don Camillo, et puis on repartait avec le dossier, c'était réglé, c'était bon, on conservait l'accompagnement de l'artiste. Aujourd'hui, on reçoit des contrats d'engagement avec écrit à la fin du contrat, c'est 6 mois, qu'est-ce qui est dit ? Il est dit retour au travail alimentaire s'il n'y a pas de rémunération de l'activité principale. Voilà. Donc désolé, c'est pas très joyeux, mais c'est ce qui se passe là depuis le 30 août. Et on n'a plus aucun pouvoir d'action. Donc nous, on se sent un peu seul. On est quand même 187 artistes, donc on est très content d'être là. Et surtout de conserver le lien parce qu'on n'a plus le pouvoir qu'on avait avant qui était de vous protéger. Voilà.
Merci. Ben moi, je rebondis sur ce que tu disais. Parce que...
Et par contre, on conserve la foi et on se bat. Hein. C'est oui. Pas pour ça que je passe mes pauses déjeuner à envoyer des mails qui n'ont pas de réponse et ouais. Puis on fait sitting.
Je rebondis sur ce que tu dis parce qu'effectivement, nous, par exemple, moi, je suis sur Nantes et on a aussi on a un référent, en fait, qui s'occupe des artistes auteurs au RSA, qui s'appelle la MAC. Et il y en a quelques-uns, en fait, dans certains endroits, mais pas tous. Du coup, soit c'est des associations. Nous, pour nous, la MAC, c'est aussi une association, mais aussi, elle fait de la formation, enfin, voilà. Et, c'est une, ouais. Ouais. Et en fait, ouais, mais du coup, eux, voilà, ils ont cette petite case de, en tant que référent, voilà, ils aident les artistes au RSA. Moi, j'y vais tous les ans en leur réunion où ils font un petit débrief du bilan des artistes qui suivent. Ils en suivent au moins 150, je crois. L'accompagnement qu'ils font pour les artistes au RSA peut durer entre 6 mois et 1 an, nous. Ça peut déborder jusqu'à 1 an. Et ce qui est quand même dingue, c'est que moi, j'en ai parlé de France Travail à la dernière réunion, je les ai rencontrés, et ils sont pas du tout au courant. Enfin, ils savent pas, quoi. Et j'ai quand même aussi émis mes doutes à une personne, un fonctionnaire du département qui finance le RSA. Et ils en parlaient de très bien, en fait, de ce France Travail. Mais je leur ai dit, mais non, là, va falloir s'y inquiéter, quoi. Enfin, c'est quand même... voilà, ils disaient que non, mais non, tant que vous êtes en réinsertion ou qu'en formation, ça va le faire, quoi. Mais en fait, non, là, les contrôles se font déjà. Et quand je reparle des données, par exemple, parce que j'y tiens, il faut savoir qu'à la CAF, ils ont donc ça, il y a des algorithmes, ça s'appelle le data mining. Donc du coup, il y a des algorithmes où il y a des personnes à risque. Et nous, on en fait partie en fait des personnes à risque. Si on reste longtemps au RSA, on est l'algorithme a fait hop, ça fait peut-être un an et demi, 2 ans que t'es au RSA, c'est pas normal, va falloir retrouver du boulot. Donc là, ça y va quoi. Et ce qui est encore plus inquiétant. C'est pour vraiment les personnes précaires. Moi, je parle là. Du coup, je déborde un peu, hein, mais pour les personnes en situation vraiment de précarité, racisée, et tout. Là, ça va être vraiment inquiétant. Il y a certaines personnes de la CAF qui s'en inquiètent, hein, parce qu'il y a vraiment des gens qui sont vraiment contrôlés, harcelés, et on coupe quoi. On coupe tout quoi. Et ouais, c'est un ensemble. C'est vraiment un ensemble. Voilà. Et pour la question de la centralisation des données et où ça va être, du coup, j'en parlais à Pierre tout à l'heure, on ne sait pas du tout. Enfin, ça va être une société privée, quoi. Ça va être Microsoft qui va avoir toutes ces données-là. Voilà. C'est juste, il faut s'en inquiéter, quoi.
Alors, moi aussi, c'est plus un témoignage qu'une question ou autre. Donc, je suis Iban. Je suis étudiant à la Martin Diderot, qui est un lycée de design public. Un des rares lycées de design public dans le Rhône. Donc, on a parlé un peu des écoles d'art tout à l'heure, mais bon, bah, du coup, pas trop des lycées de design, mais en fait, je voulais surtout parler de notre situation. Alors, pas trop du coup, en rapport avec France Travail, ça, j'avoue, je me sens pas trop concerné encore en tant qu'étudiant. Bon, bah, voilà. Il faut savoir déjà que les étudiants et les étudiantes dans ces lycées de design, donc les DNMAD, Diplôme National des Métiers de l'Art et du Design, les prépas aussi, les DSA, Diplôme Supérieur d'Art Appliqué, sont, alors moins les DSA depuis peu, mais sont sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale, ce qui pose quelques problèmes avec le CROUS notamment. Enfin, je veux dire, il y a certains droits. Nous à Lyon, c'est pas le cas de partout, mais nous à Lyon, par exemple, les étudiants en DNMAD et étudiantes en DNMAD n'ont pas le droit, par exemple, d'aller voir le ou la psychologue du CROUS. Mais en même temps, il n'y a pas d'assistance psychologique au lycée. Donc en fait, ce genre de droit normalement qu'on a réussi à conquérir pour les étudiants et les étudiantes, bah, on n'y a pas accès. C'est des financements en moins. Alors, nous, on a la chance de pouvoir avoir, pour les boursiers et les boursières, de ne pas payer les frais d'inscription. Mais par contre, les études d'art, ça coûte cher, en fait. Et on le voit, on est un peu dans un entre-soi bourgeois, dans le sens où il faut quand même avoir des moyens financiers pour financer ces études, parce que faire des maquettes, la peinture, tout coûte cher, quoi. Et enfin, le matériel de base, mais aussi les matériaux, en plus, avec cette tutelle du ministère de l'Éducation nationale, on n'a pas de moyens. Je pense que c'est pareil sous le ministère de la Culture et de l'Enseignement supérieur. Et la réforme du DSA qui devait passer comme masterisation, déjà, ça traîne beaucoup. Et c'est une non-reconnaissance des étudiants et des étudiantes comme étudiants. Et enfin, dans le statut d'étudiant, parce que on les a toujours pas passés en master, donc ils sont toujours dans un statut qui est bâtard, hein, réellement, où en fait ils sont ni élèves, ni travailleurs ou travailleuses, ni étudiants étudiantes, donc en fait ils ont pas droit à grand chose, et en fait ça met en danger ces études d'art. Et en plus de ça, je voulais rapidement ce qui pose problème, et moi j'ai essayé de fonder une fédération Massico dans mon lycée l'année dernière, mais en fait c'est très dur parce qu'avec les stages et surtout avec le travail en école d'art, c'est très dur d'avoir une mobilisation, dans le sens où on a banalisé, alors c'est le cas dans d'autres filières, mais on a banalisé en art le fait de travailler 35 heures en cours et 35 heures chez soi. Et du coup, on n'a plus le temps pour vivre réellement. Voilà.
Oui, je peux juste répondre un peu là-dessus, parce que c'est vrai qu'il y a on sent qu'il y a une espèce d'opposition qui se fait aussi entre les écoles. Entre les écoles d'art et de design qui sont sous tutelle du ministère de la Culture et les DNMAD. Il y a une espèce de... qu'on sent comme une espèce de concurrence qui se met en place. Donc là, effectivement, ce que tu décris, c'est une situation qui est aussi dégradée. Je voulais juste refaire aussi un petit point. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la joie des luttes... de la joie des luttes dans les écoles qui ont des luttes qui ont eu lieu, mais je voudrais quand même préciser que on est vraiment extrêmement inquiet, enfin qu'il y a à l'heure actuelle, enfin dans l'école d'art et design où j'enseigne, toutes les conférences du second semestre ont été annulées, il n'y a plus aucun budget pour inviter personne, il n'y a plus de workshop, il n'y a plus de... Moi, je suis obligée d'envoyer 4 mails pour avoir 5 feuilles de papier. Enfin, je veux dire, ça devient quelque chose qui est extrêmement inquiétant. Et il y a effectivement, il y a aussi tous ces postes qui sont, qui continuent à être, tous les départs en retraite, par exemple, ne sont pas. Et donc, c'est dans mon école et dans à peu près toutes les écoles territoriales. Donc, il y a une vraie, dégradation là maintenant, et qui est, on a l'impression qu'on est en train de vraiment de dégringoler, quoi. Il y a un truc qui est vraiment assez très très flippant, en fait.
Pour compléter, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, qui a été abordé dans les tables rondes précédentes, c'est la question de la recherche. Il y a une réforme, donc la réforme dite de Bologne, qui a fait passer les études en LMD, licence, master, doctorat. Et donc, les écoles d'art, comme toutes les écoles, sont rentrées dans cette réforme de Bologne et ont une injonction à faire de la recherche. Ça fait partie normalement de ce qui est censé être fait par les enseignants-enseignantes et puis les étudiants-étudiantes. Sauf qu'en fait, c'était aussi un élément assez intéressant qui était pointé dans le rapport de Pierre Houdard, c'est que, et moi ça je le retrouve aussi à l'université, c'est qu'en fait la recherche est l'espèce de chose absolument magnifique que tout le monde voudrait avoir le temps de faire, donc vu comme un espèce de luxe absolu, avoir le temps de lire des livres, de se consacrer aux choses qu'on a envie de faire, de passer du temps à réfléchir, peut-être à imaginer des choses, et que personne finalement n'a le luxe de s'offrir, puisqu'il n'y a jamais de rémunération pour ce temps de recherche en tant que telle, et ça se retrouve même dans les écoles. Moi, à l'université, j'ai la chance d'être un tout petit peu payée pour mes heures de recherche, mais c'est des heures relatives, ça n'a rien à voir avec la réalité du terrain. Mais dans les écoles d'art, ce temps-là n'est pas rémunéré, mais par contre, met en concurrence les gens entre elles, parce que il va falloir avoir les moyens nécessaires pour pouvoir consacrer du temps à la recherche. C'est valoriser son parcours en tant qu'enseignant, enseignante ou en tant qu'artiste, et donc c'est quelque part, c'est une valeur symbolique qui fait qu'on a plus d'importance que les uns les unes les autres. Par exemple, je vois à l'université, le poste que j'ai, c'est un poste d'enseignante-chercheuse. Je suis enseignante et chercheuse, sauf qu'en fait, je ne peux être qualifiée à être titulaire que sur ma recherche. L'enseignement ne compte quasiment pas. Et donc, en fait, on se retrouve avec des mises en concurrence sur des terrains de recherche, alors que, finalement, ce sont des écoles et où les questions pédagogiques devraient être au centre et au cœur de l'enseignement, des débats, de l'institution. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il est important de faire ensemble? Notamment, d'arrêter d'apprendre à des étudiants et étudiantes qu'il faut se mettre en concurrence, qu'il faut être la meilleure pour ensuite, derrière, avoir du travail, qu'on n'aura pas forcément un statut de salarié comme tout le monde, et que donc les questions de professionnalisation, et que où on va se retrouver à la sortie en inadéquation avec ce qu'on est censé faire, c'est-à-dire un parcours réussi mène à un salaire. Bah non, en fait, un parcours réussi en art ne mène pas à un salaire. C'est pas comme ça que l'écosystème est structuré. Et donc en fait, c'est toutes ces choses-là qu'on devrait apprendre en école d'art et qui devraient être valorisées. C'est pas vraiment le cas aujourd'hui.
Pardon. Peut-être pour revenir juste rapidement sur la question des conditions matérielles des étudiantes et des étudiants. En fait, bon là je vais faire focus encore sur les écoles d'art et de design, mais en fait on n'a pas accès réellement aux services du CROUS, contrairement aux universités. Quand on a accès aux restaurants universitaires, et c'est vraiment hyper minime les écoles qui ont ça, en fait on doit se déplacer 30 minutes en transport en commun pour y aller. Quand on a une heure de pause le midi, c'est pas possible. Avoir un rendez-vous chez le médecin alors qu'on paye, en fait, on paye des cotisations pour ça. Des fois, les écoles choisissent que ce soit pour la santé. Mais en fait, on doit faire une heure de transport pour pouvoir avoir accès à un rendez-vous. Pareil sur les questions de santé mentale. En fait, on va avoir des personnes psy qui débutent. C'est très bien, mais en fait, quand on est dans des problématiques sociales ou alors victimes de discrimination, en fait, c'est pas forcément des personnes qui débutent qui peuvent être les plus qualifiées pour nous soutenir. Les logements décents aussi, on peut se retrouver avec des chambres de 9 mètres carrés pour faire ses études, c'est pas possible. Protection périodique en libre accès, c'est toujours pas le cas, c'est toujours pas démocratisé encore. Et il y a une revendication aussi très importante et dont on n'a pas parlé encore, mais c'est la question du salaire étudiant. En fait, le nombre d'étudiants et d'étudiantes qui doivent travailler en plus de se former, c'est vraiment énorme. Et en fait, ça amène juste à soit des arrêts, soit juste être défavorisé dans son parcours, parce qu'en fait, il y a des personnes qui vont avoir les capacités de juste pas travailler, qui vont pouvoir se focaliser sur leur travail, sur leur leur formation, et d'autres qui vont devoir faire les deux en même temps. Un salaire étudiant, c'est simplement réussir à redonner des conditions d'accès réelles à tout le monde. Et aussi, un dernier point qui est important, c'est les conditions d'accès aux études et aux formations artistiques pour les personnes handicapées. À l'heure actuelle, vraiment, on est à la masse monstrueuse. Et en fait, juste les gens arrêtent leurs études. Le nombre de personnes handicapées qui juste font une première année, une deuxième année, essayent à la limite la troisième, la plupart, en fait, n'arrivent pas à aller jusqu'au diplôme. Et c'est une réalité vraiment criante.
Alors, rapidement, ouais, concernant les écoles d'art et la libéralisation des écoles d'art, je rejoins l'intervenante qui disait que ben en fait ça c'est une conséquence du processus de Bologne, enfin c'est la continuité du processus de Bologne où on est en train de libéraliser tous les secteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche qui sont considérés comme non essentiels, enfin l'art n'est pas tout seul, on peut parler de la philosophie, de la socio et d'autres domaines d'enseignement supérieur comme ça qui ne sont pas considérés comme des domaines qui vont être rentables, on va dire, entre guillemets, en termes de capital qui va être acquéri après, au bout de la formation, parce qu'on n'est plus dans l'enseignement, on est dans la formation. En ce qui concerne France Travail, il y a plusieurs points. Enfin, pour moi, la loi Objectif Plein Emploi, il y a la question de ce contrat d'engagement qui fait que, ben, en fait, non seulement les gens, ils sont privés d'emploi, mais en plus, c'est à eux de s'engager à se rendre employable et donc à rentrer dans le marché de l'emploi d'une manière ou d'une autre. Hein, vous l'avez dit déjà, soit en réduisant leurs attentes parce qu'ils ont eu des diplômes et du coup, ils vont pas les considérer, soit en faisant baisser leur taux horaire, ça veut dire en baissant leur salaire, etc. Il y a aussi la question de l'automatisation. On a commencé à en parler, mais en fait, il y a, avec cette loi, on va automatiser pas mal de processus d'inscription ou de désinscription à l'emploi. Je vous donne un exemple très simple. Les conjoints de personnes qui sont au RSA, même s'ils travaillent, leur conjoint, il sera automatiquement inscrit comme demandeur d'emploi, même s'il travaille. Donc il y a pas mal d'automatisations qui ont été faites comme ça. Et sur le dernier point, sur la question des algos de la CAF, surtout, alors tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'ils seront stockés en France, les données. Mais par contre, il y a une opacité qui fait qu'on ne sait même pas à quoi ressemblent les modèles d'aujourd'hui. Il y a eu un rapport de la Quadrature du Net qui est sorti il y a deux ou trois semaines, là, en novembre 2023, où ils ont réussi, parce qu'ils ont bataillé pendant quelques mois, ils ont réussi à obtenir le modèle, l'IA, quoi, l'algo, qui a été utilisé en 2010. Ça veut dire il y a 13 ans quoi, aujourd'hui. Ils ont réussi à avoir celui de 2010, mais ils n'ont pas réussi à avoir celui d'aujourd'hui. C'était impossible. Et donc, on a remarqué pas mal de biais dans le modèle de 2010 qui faisait, en fait, ce modèle-là, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais ce modèle-là, en fait, il établit un score de suspicion, on appelle ça à la CAF. En fait, ce n'est pas l'algo qui déclenche, enfin, ce n'est pas l'algo qui contrôle, mais lui, il déclenche le contrôle en fonction d'un score de suspicion. Et si vous êtes un couple au RSA, eh ben, votre score de suspicion, enfin, c'est entre 0 et 100%, hein, le score. Tu vois. Si vous êtes un couple au RSA, c'est pas mal du tout. Enfin, voilà. Si vous avez l'AAH, et que, ben, pareil, vous êtes un couple, il y en a un qui travaille, l'autre qui est à l'AAH, eh ben, du coup, pareil, votre score, il augmente. Et en fait, le problème, enfin, pour moi, c'est que quand on utilise les intelligences artificielles, je ne vais pas revenir sur la première table ronde, quand on utilise les intelligences artificielles pour automatiser certaines étapes de l'administration, je veux bien l'entendre, mais qu'il y ait une opacité totale là-dessus, que le citoyen, ça veut dire qu'il lui-même est contrôlé, lui-même est administré par ça, ne sait pas comment marche l'administration, là, du coup, il y a un vrai problème. Et voilà, merci.
Je prends juste la parole, je réponds juste à ce qu'il vient de dire, parce qu'effectivement, nous, moi, j'ai rencontré une camarade syndiquée de la CAF, hein, et qui, justement, s'inquiétait de tout ça, en fait, qui nous a expliqué comment ça fonctionnait. Et il faut juste savoir, en fait, que la CAF est en train de changer de système informatique. Voilà, là, maintenant. Et les gens qui travaillent à la CAF ne sont pas vraiment au courant. Voilà, donc, c'est fabuleux.
Oui, bonsoir. Moi, je vais amener en premier temps un petit témoignage hier pour bien artiste, auteur, peintre, dessinatrice. Je suis au RSA et à Pôle emploi, et pour de l'ARE d'ailleurs, hein, pas de l'ASS, mais de l'ARE. Et donc, en juin, comme trois autres artistes auteurs, j'ai été contrôlée par le CRE, hein, le CRE. Et les trois, enfin non, une a pu justifier d'une aide, voilà, son père étant malade. En fait, on était deux à être radiés. Et là, les camarades du CTPEP, hein, étaient présents. Il n'empêche que ça n'a absolument pas suffi. Et une petite chose, ouais, la lutte, ça paye. Parce que franchement, vous allez à Pôle emploi avec votre camarade syndiqué CTPEP, et ben, il se chie dessus. Et le rendez-vous que l'on ne veut pas vous donner sous prétexte que vous ne pouvez pas venir accompagner, alors que c'est écrit noir sur blanc, on peut être accompagné de la personne de son choix, mais pas quelqu'un du CTPEP. En fait, là, courrier à pied, etc., j'ai été reçue au final par la directrice de l'agence de Pôle emploi à Saint-Étienne. Voilà, Pôle emploi Clapier. Il n'empêche que j'ai été ralliée quand même. Et au dernier tour quand même de courrier, j'avais justement essayé de jouer sur le nombre d'heures. Moi, j'ai calculé, et d'ailleurs, j'ai même dû baisser, parce que bon, en fait, ça faisait trop presque, mais c'était pourtant ça, mais à 4000 heures de travail par an, et en étant légère. Hein, voilà. Et en fait, ça, ça a été, mais alors, rien à cirer du tout du truc. Autre chose, c'est que maintenant, depuis au moins juin, je pense un petit peu avant, mais au moins juin, vraiment à attester, ce qui n'était pas du tout le cas avant, ça y est, la CAF, enfin le Conseil départemental et Pôle emploi se parlent. Et moi, j'ai eu donc un courrier, et là, en me disant, et si vous n'êtes pas contente de ci, de ça, etc., si vous n'êtes pas capable de justifier de vos heures, enfin de votre aide, vous serez aussi radié côté RSA. Voilà, c'est-à-dire que les menaces maintenant se font d'un côté comme d'un autre. Voilà. Et que ce que tu disais, toi, voilà, pour le CTPEP, en fait, bah, en tout cas à Saint-Étienne, ça n'a pas du tout suffi pour qu'on nous laisse tranquille. Et je pense que là, il va y avoir d'autres vagues. Et là, on n'a pas eu tout le monde, on a du mal à récupérer les infos. Mais bon, voilà, ça reste compliqué. Et après, deuxième petite chose, c'est par rapport aux écoles d'art. Pour avoir été et étudiante, mais il y a 20 ans, et prof en école en art, en année préparatoire. Alors, c'était le programme international. Enfin, bon, on était un peu à part, mais bon, bref, c'était à l'ESSAD à Saint-Étienne, donc côté public, mais aussi à Condé, donc côté privé. Alors, déjà, le statut vacataire, hein, c'est kiff-kiff bourrico, et c'est la même paye, c'est 30 euros net de l'heure, innégociable. Enfin, voilà, c'est ni possible de changer de statut, ni possible d'avoir une augmentation. Pour l'anecdote, au bout de 5 ans à l'ESSAD, j'ai quand même essayé de demander une augmentation et un statut. Autre que vacataire, mais au moins contractuel. Bon, comme j'étais la seule, j'ai lâché l'affaire. Mais il n'empêche que le camarade syndiqué est quand même allé farfouiller au moins pour les fiches de paye. Pour X raisons, qu'il n'a jamais su, personne ne sait. En fait, j'aurais quand même dû être payée en tant que vacataire 56 euros et pas 30 euros. Net. Hein, les deux, net. Et là, il y a un truc, il y a presque 30 euros qui partent dans la pente pas. On ne sait pas pourquoi. Donc voilà. Et autre chose qui est aussi la côté étudiant, et c'est quelque chose, moi j'ai beaucoup vu, alors beaucoup moins quand même en privé malgré tout, mais en tout cas côté école d'art appliquée à 6000 boules l'année, hein, pour les étudiants étudiantes. Quand bien même il y a une part, un tiers, il y a pas de souci pour payer, un tiers c'est ric-rac, mais avec un peu de, voilà, les bourses, etc., ça peut marcher. Puis il y a un tiers, bon, c'est qui prendra un prêt, les parents, les étudiants, ce que je racontais. Voilà, il y a une des étudiantes qui racontait à ses petites camarades, complètement écœurées, outrées. Ben, moi, ma grand-mère, elle est morte pile poil quand il fallait. Et puis ces étudiants qui bossent et qui, du coup, ben, sont très fatigués. Parce que voilà. Et au-delà de ça, il y a un barème qui n'est jamais dit dans ces écoles d'art. C'est qu'en fait, c'est comment les étudiantes et étudiants vont tenir le coup à l'année et en fait vont pouvoir encaisser effectivement les fameuses 35 heures de cours effectifs et les 35 heures, grosso modo, de boulot à faire à la maison. Et ça, eh ben, ça donne généralement 1 à 2 étudiantes par classe, hein. Condé, année préparatoire, je ne sais plus, il y aura une dizaine de classes, qui font un burn-out. Alors, faire un burn-out à 30 ans, 45 ans, c'est déjà raidasse, mais en faire un à 18 ans, franchement, c'est moche à voir, c'est moche à vivre, qui a ça, puis dépression, puis ça du suicide. Hein. Enfin, voilà, il y a un mal-être dans les écoles d'art qui n'est absolument pas pris en compte, et nous, les profs, mal payés, maltraités, ultra fliqué, mais du coup le flicage, hein, c'est quasiment le même qu'entre Pôle emploi, conseil départemental, les écoles, c'est kiff kiff bourrico, on est fliqué de partout. Mais bon, pour la jeunesse, battez-vous, ça vaut la peine.
Merci. Je voulais juste savoir, est-ce que vous savez si les heures de bénévolat qu'on est censé faire, il faudra les faire dans des associations qui correspondent à l'engagement républicain? Comme ça, on... Oui, non, mais c'est une fausse question. C'est pour dire qu'en vrai, c'est logique et que juste, il va falloir travailler pour la logique républicaine, quoi, et qu'en vrai, c'est abusé. Mais voilà, enfin, après, vous pouvez répondre, hein, mais c'est une fausse question.
Oui, bonjour. Je voulais revenir, moi, sur France Travail, et notamment sur la question de comment on fait pour s'organiser et se mobiliser contre ce qui n'est plus un projet, parce que c'est une loi qui est passée. Donc on est un peu sur du déjà un petit peu après, au niveau législatif. Et donc moi je voulais déjà annoncer une date, c'est mardi qui vient, le 19, à la Bourse du Travail, il y aura une assemblée générale des intermittents, chômeurs, chômeuses précaires. Voilà, mais je pense vraiment qu'il faut que tout le monde vienne, y compris nous autres artistes auteuristes, y compris les camarades travailleuses, parce que ça fait partie du parcours potentiel de tout le monde, ça concerne tout le monde. Et voilà, il y a aussi le camarade de la CGT privée d'emploi qui parlait du premier trimestre 2024. Je voulais savoir si vous aviez déjà un peu envisagé des choses. Et le dernier truc dont je voulais parler, c'est qu'avec le comité de lutte, donc, qui était un collectif qui est né pendant le mouvement des retraites et qui visait, pour faire très court, à organiser des actions, notamment en dehors des grandes dates nationales et des grosses manifestations, et d'élever le rapport de force en permanence. Donc avec ce comité de lutte qui existe toujours et qui essaie toujours d'organiser des choses, tout simplement, on fait déjà des diffs de tracts jusqu'à janvier, en attendant de voir en janvier, au niveau des forces autour de nous, ce qu'on peut faire. Donc voilà, on fait des diffusions devant les pôles emploi toutes les semaines. Si vous êtes intéressé et que je vous file plus d'infos, peut-être venez me voir après, pas prendre trop de temps tout de suite. Mais voilà, la question, c'est premier trimestre 2024, qu'est-ce qu'on fait sur France Travail?
Vous avez des choses à rajouter? vas-y Pierre, peut-être je te laisse conclure alors.
Quand même, c'est peut-être juste sur la question quand même des données, il faudrait pas qu'on pense que c'est tout nouveau, hein. Le fait que Pôle emploi, la CAF, la CPM, les impôts discutent entre eux, ça c'est vrai depuis tout le temps. Là,